22h passées de 20 secondes, vous écoutez Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Valérie Pécresse jette l'éponge, elle quitte les Républicains 10 jours après la défaite historique aux européennes. Elle s'en va et elle balance. On l'entendra dès le début de ce journal. Portsmouth ce matin, Caen ce soir, avant les plages du débarquement demain. Les commémorations du D-Day 75 ans après. Matinale spéciale demain matin sur Europe 1 à partir de 7h avec Mathieu Béliard en direct d'Arromanches. Perquisition chez un ancien ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb visé par une enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics. Roland Garros bâché, la fête gâchée. La pluie a empêché la tenue des derniers quarts de finale. Côté météo, justement, 11 départements du Grand Est placés en alerte orange pour cause d'orage. Soyez prudents, cette vigilance théoriquement devrait être levée vers minuit. Demain, retour progressif des éclaircies sur l'ensemble du pays. Soleil près de la Méditerranée, moins beau sur la Bretagne, sous les averses le matin. Des pluies qui vont gagner le Nord-Ouest en fin de journée. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Comme chaque soir, 22h20, vous aurez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président du syndicat national du jeu vidéo qui a officialisé ce matin la naissance des Pégases du jeu vidéo. C'est un nouveau trophée pour mettre en valeur et récompenser la production, essentiellement française, avec une grande cérémonie, l'équivalent des Césars.
Europe 1.
Et c'est donc l'info politique de cette soirée. Nouvel épisode de la crise chez les Républicains, 10 jours après la défaite de la liste menée par François-Xavier Bellamy aux européennes. Valérie Pécresse jette l'éponge et estime qu'elle n'a plus sa place dans ce parti sur lequel elle porte un jugement sévère.
J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. Vous savez, ça fait 3 ans que je plaide pour un changement de ligne et un changement de stratégie. J'ai plaidé pour l'élargissement de la droite. On a eu le rétrécissement. J'ai plaidé pour la clarification vis-à-vis de tous ceux qui, aux Républicains, susurrent qu'on ferait bien d'aller faire une alliance avec l'extrême droite. Donc, je crois que nous devons refonder la droite. Elle est menacée d'extinction. Et il faut se remettre au travail.
La démission de Valérie Pécresse annoncée ce soir sur France 2. Réaction de Christian Jacob, le patron des députés Les Républicains. Il juge cette décision totalement incompréhensible. Il s'appelait Henri Ferté. Il était résistant et il avait 16 ans quand il a été fusillé en 1943. Avant de mourir, il avait écrit une lettre qu'Emmanuel Macron a lue ce matin à Portsmouth dans le sud de l'Angleterre où ont débuté aujourd'hui les commémorations du 75e anniversaire du débarquement.
Chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vu si plein de courage que je n'en doute pas vous voudrez bien encore le garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Je meurs pour ma patrie, je garde mon courage et ma belle humeur jusqu'au bout. Et je chanterai sans brémeuse parce que c'est toi, ma chère petite maman, qui me l'a appris. Les soldats viennent me chercher, je hâte le pas. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir.
La lettre du jeune Henri Ferté, fusillé en 1943, lue par Emmanuel Macron ce matin à Portsmouth à l'occasion des commémorations donc du 75e anniversaire du débarquement, en présence de la reine d'Angleterre, de Donald Trump, de la chancelière allemande, du premier ministre canadien notamment. Un anniversaire qui met à l'honneur les vétérans. 300 anciens soldats britanniques ont symboliquement retraversé la Manche aujourd'hui. Ils participeront demain aux commémorations en Normandie cette fois. Et pour marquer cette journée historique, les 16 pays représentés à Portsmouth ont adopté une déclaration pour faire en sorte que les sacrifices du passé ne soient jamais vains et jamais oubliés. Après Portsmouth, Emmanuel Macron était ce soir à Caen où il a rendu hommage aux résistants normands, eux aussi fusillés, juste avant le débarquement. Lord d'Autriche était sur place.
Cette cérémonie s'est tenue devant les portes de la prison de Caen en présence de 500 invités et de plusieurs associations de résistants. Ce 6 juin 1944, à la prison de Caen, sur ordre de la Gestapo et alors que les Alliés approchent des côtes normandes, 80 résistants ont été fusillés. Ils seront d'abord inhumés dans les courettes de la prison destinées aux promenades. Selon les consignes, ils devaient disparaître à jamais dans la nuit et le brouillard. Il y a quelque chose de solennel dans la lecture uniquement de l'aide écrites par les fusillés. Des fleurs ont été déposées au pied des portraits des résistants qui ont été accrochés sur les murs. Et puis il y a eu ce moment poignant où les professions des résistants ont été égrenées. Boulangers, cheminots, coiffeurs, employés de banque, chirurgiens, dentistes. Cela révèle à quel point toutes les composantes de la société française étaient représentées dans les réseaux de la résistance. À Caen, lors d'Autriche, Europe 1.
Voilà donc pour les commémorations du jour. De nouvelles célébrations internationales, je vous le disais, sont prévues demain avec plusieurs temps forts. Dès demain matin, Justin Morin.
Oui, avec la dernière cérémonie officielle de Theresa May en tant que première ministre britannique avant sa démission prévue vendredi. Ce sera dès 8h30. Elle sera aux côtés d'Emmanuel Macron pour poser la première pierre du mémorial britannique à Ver-sur-Mer dans le Calvados. À 9h30, rendez-vous à la sous-préfecture de Bayeux. Le président de la République rencontrera deux vétérans français, Léon Gauthier et Jacques Lewis, respectivement 100 et 97 ans. Mais le moment très attendu, c'est l'arrivée de Donald Trump sur le territoire français. Atterrissage de l'Air Force One prévu vers 10h20 à l'aéroport de Caen. Carpiquet, puis direction le cimetière américain de Colville-sur-Mer avec en fond Omaha Beach pour la grande cérémonie de commémoration du débarquement à 11h. Plus de 10 000 personnes sont attendues, un défilé aérien, le tout co-présidé par les deux chefs d'État, Emmanuel Macron et Donald Trump, qui effectueront une brève allocution. Ils se retrouveront ensuite pour un déjeuner de travail plus officieux à la préfecture de Caen, d'abord en tête-à-tête, puis avec leur délégation. Le président de la République terminera cette journée d'hommage à Colville-Montgomery. Emmanuel Macron rendra hommage au commando Kieffer, composé de 177 fusiliers marins, les seuls Français en uniforme à avoir participé au débarquement en Normandie. Aujourd'hui, seuls 3 d'entre eux sont encore en vie.
Merci Justin Morin. Et ne manquez pas donc la matinale spéciale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard qui sera en direct d'Aromanche à partir de 7h. Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a de nombreux épisodes qui sont beaucoup moins connus, absents même parfois des manuels d'histoire et pourtant dramatiques. On a par exemple complètement oublié qu'entre le 22 et le 24 janvier 1943, à Marseille, une série de rafles a eu lieu. Hitler avait décidé d'épurer le chancre de l'Europe. Plusieurs victimes et rescapés de cette rafle de Marseille ont porté plainte et une enquête a été ouverte pour crime contre l'humanité afin de retrouver d'éventuels responsables. Robert Barron a aujourd'hui 83 ans. Le 23 janvier 1943, il en avait 6, mais il n'a rien oublié.
Comme tous les jours, on se lève pour aller à l'école. On entend un bruit sourd dans le couloir. On tape à la porte, on évacue, sans savoir pourquoi. Préparez vos affaires le plus simple possible. Et on est descendu au Vieux-Port. Et on a été embarqué dans les trains bestiaux pour Fréjus.
Et vous avez tout laissé dans l'appartement ?
Eh oui, bien sûr. On n'était pas riches, bien sûr. C'était la classe ouvrière, la classe napolitaine des pêcheurs. Il a fallu tout laisser. Mais quand on est revenu de Fréjus, on nous avait tout volé.
Qu'est-ce qui s'est passé après ? On a tout détruit ?
Et oui, au mois de février, après, ils ont tout détruit, les immeubles, 1500 immeubles. Et on n'a rien pu emporter. Mes parents, par exemple, ma mère, elle avait perdu tous ses cheveux de mauvais sang. Tout perdu, vous savez, ça fait un coup pour les parents.
Et qui a détruit ce quartier napolitain de Marseille ?
Eh bien, c'est le régime de Vichy. Himmler, il avait dit de démolir les vieux quartiers avec les gens dedans. Mais il y avait beaucoup de juifs qui venaient à Marseille aussi pour se cacher, pour partir en Amérique. Mais il y a plus de 3000 personnes qui sont parties en Allemagne et qui ne sont plus revenues.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la justice ?
Une reconnaissance quand même. La mémoire, bien sûr, et puis sur les livres d'histoire, qu'on marque quand même qu'on a été évacués, volés et partis. On a tout laissé, tout laissé. Ça fait partie de l'histoire de Marseille.
Voilà un témoignage recueilli pour Europe 1 par Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 à Marseille. Dans un instant, la suite de votre journal, le domicile et le bureau d'un ancien ministre de l'Intérieur perquisitionné. A tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1. Le bureau de Gérard Collomb à la mairie de Lyon ainsi que son domicile perquisitionné aujourd'hui. L'ancien ministre de l'Intérieur est visé par une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement de fonds publics au profit de son ex-compagne. Expliquez-nous Rémi Pierre.
Eh bien, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales s'intéressent au travail de l'ex-compagne de Gérard Collomb. Meriem Nouri est en effet employée depuis 1995 à la mairie de Lyon. Elle y est entrée alors qu'elle partageait la vie de l'ancien ministre de l'Intérieur, lui-même à l'époque maire du 9e arrondissement, et elle y est restée après leur séparation. Depuis, elle a enchaîné des postes très variés, notamment dans des mairies d'arrondissement. Alors, les soupçons de détournement de fonds publics portent précisément sur la période 2009-2018 et sur une somme globale de 500 000 euros. Les policiers s'intéressent à de nombreuses heures supplémentaires payées à Meriem Nouri. Lors de leur perquisition à l'hôtel de ville, qui a duré 8 heures et s'est achevée vers 19 heures ce soir, ils auraient notamment récupéré des bulletins de salaire et des contrats de travail de l'ex-compagne de Gérard Collomb. Le maire de Lyon devrait lui publier un communiqué dans la soirée. Du côté de son entourage, on évoque un règlement de compte et une opération boule puante à quelques mois seulement des municipales.
Les précisions de Rémi Pierre à Lyon pour Europe 1. 5 personnes condamnées aujourd'hui à 6 mois de prison ferme pour l'agression de journalistes et d'agents de sécurité à Rouen, c'était lors d'une manifestation de Gilets jaunes. À propos de Gilets jaunes, 4 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende requis contre Éric Drouet pour avoir participé à une manifestation non déclarée à Paris en décembre dernier avec dans son sac une matraque en bois, selon l'accusation, un bout de bois, selon son avocat. La garde à vue d'André Boudou, le père de Laetitia Hallyday, levée. Il était interrogé dans le cadre d'une enquête portant sur une éventuelle fraude fiscale dans la gestion de sa discothèque L'Amnésia au Cap d'Agde. Le ton est encore monté aujourd'hui entre Rome et Bruxelles. Ce matin, la Commission européenne a recommandé l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif à l'encontre de l'Italie. Procédure qui place la péninsule sous la menace d'une amende en raison d'une importante dette. Cet après-midi, les deux vice-premiers ministres italiens, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, ont dénoncé cette procédure. Marseille est le 8e port le plus pollué d'Europe, chiffre de l'ONG Transport et Environnement. En cause, les bateaux de croisière qui font escale et qui utilisent un carburant très soufré et très polluant. En tête de ce triste palmarès, Barcelone, Palma de Mallorca et Venise, Nice est 39e, Toulon 49e.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Les sports et l'annonce ce soir du départ de Gianluigi Buffon, le gardien italien qui ne sera donc resté qu'un an au PSG. Buffon, 41 ans, qui a partagé cette saison les buts parisiens avec Alphonse Areola. Allez Paris, merci et bonne chance pour tout, écrit-il sur son compte Instagram. J-2, cette fois ça se rapproche sérieusement. Vendredi, ce sera le coup d'envoi du mondial féminin avec le match entre la France et la Corée du Sud, Coupe du Monde à domicile. Et on poursuit ce soir sur Europe 1 notre série de portraits afin de mieux faire connaissance avec nos championnes. Julien Froment, vous nous présentez aujourd'hui Valérie Gauvin, l'avant-centre numéro 9 de l'équipe de France.
Elle est grande, attaquante de pointe et a porté les couleurs de Montpellier. Elle empile les buts en sélection. Il n'en fallait pas moins pour que Valérie Gauvin devienne la Olivier Giroud de l'équipe de France féminine. Un rôle parfois ingrat, une femme de l'ombre, mais primordiale pour sa coéquipière Élise Busaglia.
C'est une joueuse atypique par son profil. Pour nous, c'est un vrai point d'appui. On peut lui donner le ballon assez rapidement pour faire sortir tout le bloc, pour s'appuyer dessus.
Grâce à sa pugnacité, la natif de Sainte-Clotilde à La Réunion a gagné sa place parmi les 23, au détriment de la jeune et prometteuse Marie-Antoinette Katoto. Elle sera, sauf blessure, titulaire vendredi pour le match d'ouverture contre la Corée du Sud. Et au micro de Mathieu Béliard, elle avait imaginé son but.
Dans vos rêves, il se décrit comment ?
Franchement, j'aimerais bien un but du pied, que ça soit une reprise ou quelque chose comme ça, mais... Après, quoi que je puisse utiliser comme membre de mon corps, s'il rentre dans les buts, je serai tout aussi contente.
Valérie Gauvin pense tout d'abord au collectif et comme son collègue Olivier Giroud, un mondial sans un seul but lui irait à ravir si le 7 juillet prochain, elle soulevait le trophée de la Coupe du Monde.
Évidemment, on l'espère. Merci Julien Froment. Jusqu'à vendredi, grâce à vous, on continuera à faire un peu mieux connaissance avec nos footballeuses. Je vous rappelle, le premier match, vendredi 21h face à la Corée du Sud, ce sera à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Et puis la pluie a joué les troubles faits aujourd'hui à Roland-Garros.
Roland-Garros 2019.
Jeu, set et match.
L'événement tennis est sur Europe 1.
La pluie qui a même carrément empêché la tenue des matchs prévus aujourd'hui. Les derniers quarts de finale dames entre Madison Keys et Ashley Barty et entre Simona Halep et Amanda Anisimova, ainsi que les deux derniers quarts de finale messieurs Djokovic, Zverev et Tim Kachanov. Les cours sont restés bâchés donc toute la journée et les spectateurs forcément déçus. Récit signé Christophe Lamarre.
17h36, le speaker officiel du stade Roland-Garros se tient dans l'angle du cours central. Marc Maury jette un regard vers les tribunes presque vides, puis un micro à la main annonce ce que tout le monde redoutait un peu.
Mesdames, Messieurs, nous avons le regret d'annoncer qu'en raison des conditions météorologiques défavorables, plus aucun match ne pourra être joué aujourd'hui à Roland-Garros.
Pas de sifflet, pas de cris dans les allées, le public se rend à l'évidence. On ne peut pas jouer au tennis sous la pluie.
C'est surtout une journée perdue, quoi. Une demi-journée de plaisir qui n'aura pas lieu. Quoi. C'est aussi l'occasion de se retrouver entre amis. Quoi. Donc, mais là, on n'aura même pas l'occasion de voir quelques balles échanger. Quoi.
Déçu, oui, fataliste aussi. Ouais, les deux, probablement.
La fête est gâchée, quoi. C'est dommage. Parce qu'il a fait tellement beau déjà hier et les jours précédents. Enfin bon, c'est comme ça, c'est tout.
Les billets seront intégralement remboursés et les spectateurs lésés pourront entrer dans le stade demain et même aller sur le cours Suzanne Lenglen.
Christophe Lamarre qui nous fait vivre habituellement quand il ne pleut pas ce tournoi de Roland-Garros avec Corinne Boulou.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et on va jeter justement un œil sur la météo avec vous, Elena Mornin. Atmosphère électrique sur le nord-est. Elena, 11 départements sont en alerte orange pour de violents orages.
Oui Isabelle, des orages qui éclatent en ce moment entre le nord de la Bourgogne, Franche-Comté, Champagne, Ardennes, Lorraine et Alsace. Alors comme ceux qui ont éclaté hier, ils s'annoncent par de très fortes rafales de vent et des trombes d'eau. La vigilance court jusqu'à minuit. Quant aux pluies abondantes sur l'ouest, eh bien on n'en parle plus ce soir. On aura quand même eu l'équivalent d'un mois de pluie dans le sud-ouest en une journée. Demain, retour des joueurs sur Roland-Garros et des éclaircies sur l'ouest avant l'arrivée d'une nouvelle onde faiblement pluvieuse, des averses en fait, sur la Bretagne en matinée, puis jusqu'en Normandie, en Vendée et Pays de la Loire l'après-midi. Alors sur l'Est, un ciel nuageux le matin, essentiellement sur les frontières, après le passage des pluies et des orages. Puis, ça s'éclaircit l'après-midi, très beau près de la Méditerranée. Cette accalmie sera malheureusement de courte durée. Vendredi, voilà Miguel, une tempête sur la façade atlantique, avec des vents violents entre le sud-ouest jusqu'au Pays de la Loire et la Touraine. Quelques températures allez pour demain après-midi, en baisse naturellement après les orages. 16 à Brest, 19 à Lille, Rouen et Belfort. 20 degrés, ce sera pour Paris et Nantes, 21 à Strasbourg, 22 à Clermont-Ferrand et Bordeaux, 24 à Lyon, Toulouse et Ajaccio, 25 pour Marseille, 27 à Nîmes.
La météo signée Elena Mornin.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président du syndicat national du jeu vidéo. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h19, on s'intéresse à la bourse, bien sûr, avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui résiste ce soir.
Oui, les indices ont hésité après leur gros rebond hier, mais c'est finalement du vert. Plus 0,82% pour le Dow Jones, 22 540 points. Le Nasdaq avance de 0,64%, 7 575 points. Des indices soutenus comme hier par les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Et puis, on a de petites avancées dans le dossier commercial avec le Mexique. Peut-être un compromis avec Mexico pour éviter les lourdes taxes sur les importations promises par Donald Trump. Alors, même si le discours du président américain est souvent contradictoire. Du côté des mauvaises nouvelles, le pétrole rechute lourdement, moins 3,7% ce soir. Le baril WTI est à 51,68 $. Ça pèse sur un des géants du secteur, ExxonMobil, qui perd 0,9%. Mais Chevron résiste en hausse de 0,3%. Les grands groupes technologiques continuent de remonter après le coup de tabac du début de la semaine. Apple gagne 1,7%, Microsoft plus 2,1%, Amazon plus 0,5%. Et puis du côté des devises, l'euro perd 0,12% à 1,1232 $ avant la réunion de la Banque Centrale Européenne. Ce sera demain. La BCE devrait continuer de tenir un discours accommodant.
Le marché parisien, lui, enchaîne une troisième séance dans le vert.
Troisième séance de hausse modérée pour le CAC 40 qui engrange tout de même 0,45%, 5 292 points. Le CAC a été bien aidé par LVMH. C'est la plus grosse valeur à la Bourse de Paris en hausse de 2,2%. Sa marque de luxe Louis Vuitton a une nouvelle fois rassuré sur l'activité en Chine en allant jusqu'à évoquer des taux de croissance inouïs. Ça apaise les inquiétudes concernant l'évolution du marché chinois et l'impact de la guerre commerciale avec les États-Unis. Et puis Bourbon décolle ce soir, plus 9,5% pour le titre. Les créanciers du groupe de services maritimes ont déposé une nouvelle tentative pour tenter de restructurer la dette.
Europa Corp, le titre de la société de Luc Besson, lui, flambe carrément ce soir.
Oui, plus 17% pour Europa Corp. Le titre a déjà connu une envolée boursière fin mai après l'annonce de discussions avec ses créanciers. Mercier et le groupe Pathé dans le cadre de la restructuration de sa dette. Les marchés européens ont terminé la séance en petite hausse, une hausse symbolique de 0,1% pour Londres et pour Francfort. Madrid plus 0,4, Amsterdam plus 0,5, Bruxelles perd 0,1% et moins 0,4 pour Milan, alors que la Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure contre l'Italie. Elle estime qu'elle ne respecte pas les règles budgétaires de l'Union. Et puis je vous redonne le CAC 40, Isabelle, il gagne 0,45%, 5292 points ce soir.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de Boursier.com. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le président du syndicat national du jeu vidéo.
Levan Sorgevazé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du syndicat national du jeu vidéo. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est parce que vous avez annoncé que vous allez lancer l'an prochain les Césars des jeux vidéo. Alors la cérémonie va être baptisée, je crois, les Pégases. Première question toute bête, pourquoi une telle cérémonie ?
Alors pourquoi une telle cérémonie ? Parce que, enfin le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a énormément de jeux vidéo. Aujourd'hui en France, les gens jouent énormément aux jeux vidéo, c'est le loisir préféré des Français, c'est même l'industrie culturelle qui est numéro un aujourd'hui en France et dans le monde, et les Français et les Françaises jouent beaucoup à des jeux, y compris à des jeux qui sont des jeux français, qui sont faits, produits et réalisés en France,
à Paris, en région. Ils sont fait partie des principaux acteurs dans le monde, la France, hein, de la création de jeux vidéo.
Et donc vous avez des studios à Bordeaux, à Lyon, à Lille, vraiment un petit peu partout, des jeux vraiment de différents types, et à mon avis, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne savent même pas que les jeux auxquels ils jouent sont des jeux français.
Donc déjà, la première raison, c'est donc de saluer le Made in France.
Il faut saluer le Made in France. C'est vrai qu'il faut pas, en France, on est prompt à être dans l'autoflagellation, à dire on n'y arrive jamais, on est nul, on n'y arrive pas. Au contraire, on est vraiment très bon dans ce domaine-là. Et pas que très bon au niveau des chiffres, des ventes. On est très bon aussi là-dedans. Mais il y a aussi des jeux qui sont extrêmement exigeants, qui artistiquement, qui ont un message. Et ces jeux-là aussi, on a envie de les mettre
Est-ce que c'est ça aussi la deuxième idée peut-être derrière cette cérémonie, c'est que finalement aujourd'hui, en France comme dans d'autres pays, on fait des jeux vidéo d'un point de vue artistique vraiment très poussé et avec des budgets aussi conséquents qu'un film de cinéma.
Alors on a dans le jeu vidéo des budgets qui peuvent être extrêmement élevés, qui peuvent dépasser les 50 voire les 100 millions d'euros. Ça, c'est un fait. Et parfois, certains sont produits en France. En effet, on a des blockbusters, des AAA comme on les appelle. Mais il y a aussi des plus petits jeux qui ne sont pas forcément... C'est pas forcément la course au budget. Il y a aussi des jeux indépendants. En ce moment, il y a un jeu, par exemple, qui cartonne, que tous les amateurs de plateformeurs connaissent, qui s'appelle Dead Cells. Eh bien, c'est fait à Bordeaux, par exemple. Mais je pourrais avoir plein d'exemples comme ça, et qui sont des jeux qui n'ont pas coûté 50 millions. Et moi, ce que je voulais surtout, c'est mettre en avant aussi, non seulement les jeux et les studios, et le Made in France, la qualité française, mais également les gens. Celles et ceux qui, concrètement, font les jeux.
Alors, vous dites que vous voulez que ce soit un peu les Césars des jeux vidéo, mais on va pouvoir voir ça où, pour ceux que ça intéresse ?
Alors, très concrètement, pour l'instant, notre choix de diffuseur et de producteur n'est pas encore arrêté, donc ça, je vous tiendrai au courant. La cérémonie qui récompensera les jeux réalisés en 2019 aura lieu donc, au premier trimestre 2020, comme ça se fait en général pour les prix. Mais je n'ai pas encore de date exacte, ça dépendra évidemment.
Mais vous avez envie que ce soit bien diffusé, qu'on puisse bien le voir.
Bien diffusé parce que je pense que c'est pas... les gens veulent voir ça. Il y a quelque chose, à mon avis, il y a vraiment un attrait pour ça. Et les gens veulent aussi, à mon avis, ils voudront comprendre comment c'est fait un jeu, qu'est-ce qu'il y a derrière, un petit peu l'envers du décor.
En tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça fait partie de ces secteurs qui fonctionnent très très bien. Comment se porte le jeu vidéo depuis le début de l'année ?
Alors le jeu vidéo à l'échelle mondiale, c'est un secteur qui est en grande croissance. Aujourd'hui, ça pèse, si on veut des chiffres, je crois que ça pèse 114 milliards d'euros. Bon, enfin, ce sont des chiffres qui veulent même plus tellement rien dire à ce niveau. En France, par exemple, on est en croissance. On crée 20% d'emplois chaque année depuis plusieurs années. On représente à peu près 7% du marché mondial. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et donc, c'est un secteur qui embauche et qui se porte de mieux en mieux. Et j'espère qu'on pourra continuer dans la voie des embauches, des augmentations de salaire, des améliorations, des conditions de travail pour tout le monde. C'est quelque chose qui est en train de s'améliorer sur tous les fronts.
Ce qui est très intéressant comme secteur, c'est qu'au début, le jeu vidéo, c'était pour les gamers, comme on dit, ceux qui sont vraiment fans du jeu. Si ça marche si bien, c'est parce que finalement, aujourd'hui, ça touche toutes les tranches de la population. De plus en plus de femmes jouent. Je crois qu'on est même à un joueur sur deux est une femme, si je ne dis pas d'annerie en France.
Dans les années 80-90, le jeu s'était un peu vu comme quelque chose, effectivement, les gamers, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire des joueurs, c'est toujours quasiment toujours des garçons, relativement jeunes, etc. Maintenant, ça s'est terminé. Alors, bien sûr, il y a différents publics, il y a toujours des gamers, et des gameuses d'ailleurs aussi. Et il y a toujours des jeux qui sont un peu plus genrés que d'autres. Mais aujourd'hui, on assiste vraiment à une démocratisation évidente des jeux, que ce soit le jeu occasionnel, qui s'est démocratisé depuis déjà 10 ans, mais également le jeu un peu plus compétitif, par exemple l'e-sport. Et bien là encore, c'est quelque chose qui s'ouvre à toutes les tranches d'âge et pour tous.
Est-ce que le boom du jeu sur mobile explique aussi le fait que l'on joue de plus en plus parce que on découvre des petits jeux un peu rapides dans les transports en commun ou à la maison, puis finalement on bascule vers autre chose derrière?
On a eu beaucoup de révolutions. Le mobile en a été une. En fait, depuis 15 ans, le jeu vidéo est ballotté quasiment, va d'une révolution à une autre. C'est l'arrivée des femmes comme consommatrices. C'est le jeu sur mobile, c'est le jeu sur le web, c'est le jeu dit gratuit ou freemium. Mmh. C'est évidemment l'ouverture des marchés en Asie du Sud-Est et en Chine. En fait, tous les 3 ans, on a une révolution.
Et puis, peut-être la révolution qui arrive, là, parce qu'il y a l'E3 hein, qui arrive. Alors, c'est le grand salon du jeu vidéo. Ça se tient chaque année aux États-Unis. Ça commence ce week-end, mais les grands temps forts, c'est à partir de lundi. Et là-bas, on va parler cloud gaming. Alors là, j'ai sûrement certains de nos auditeurs qui sont en train de se dire « Mais de quoi il est en train de nous parler ?» C'est-à-dire qu'on n'a plus de console et les jeux sont dématérialisés. C'est ça la tendance de demain ?
Alors, c'est très difficile de faire des
c'est le pari pour demain.
Oui, mais c'est toujours difficile de faire des prédictions, surtout quand elles concernent le futur. Ça, c'est Donc, je ne m'y risquerai pas, surtout que dans ce domaine précisément, le cloud gaming, on peut parler des Netflix du jeu vidéo, par exemple. Ça, je crois que ça parlera peut-être un petit peu plus. L'idée, c'est quoi ? C'est que vous avez un périphérique relativement léger, comme un smartphone ou comme un petit PC. Et vous jouez avec ce petit périphérique à des jeux qui sont extrêmement exigeants en termes de puissance de calcul. Et comment ? Bien, tout simplement parce que votre périphérique est connecté avec une très bonne connexion à des machines beaucoup plus puissantes qui permettent de faire tourner un jeu beaucoup plus gros. Alors, ça marche pour certains jeux déjà, ça fonctionne déjà technologiquement. Est-ce que ce serait étendu à tout le marché ? Est-ce que tout le monde va finir par jouer sur ce genre de support ? Et donc, est-ce que ça va tuer la console et l'ordinateur plus portable ? Enfin, l'ordinateur de bureau, je ne pense pas personnellement, mais il est clair
qu'il y a une place. Vous pensez que tout ça sera l'un à côté de l'autre ?
Moi, je pense. En général, c'est la tendance. Je pense que. Mais vous mettez trois spécialistes du jeu vidéo dans une pièce à débattre de cette question, vous aurez 4 avis différents. Moi, j'en aurai 2.
Et bien, en tout cas, on va rester sur votre avis. Merci beaucoup, Levan Sarjeveladze, d'avoir été notre invité ce soir, président du syndicat national du jeu vidéo. On se retrouve demain sur Europe 1, 22h20.
À demain. Merci beaucoup, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité écho avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Une photo en noir et blanc à la une du Figaro. La photo de héros, des hommes allongés dans l'eau, nageant, rampant avec leurs casques, leurs armes, leurs sacs à dos qui semblent si lourds. Ces héros qui tentent de rejoindre la plage où les attendent les balles ennemies. Et ce titre, 6 juin 1944, le matin de la liberté. Depuis Jimmy Carter, tous les présidents américains sont venus à Colville-sur-Mer, écrit François-Xavier Lefranc dans West France. Ils ont parlé de paix et d'entente entre les peuples quand Donald Trump, lui, pense à l'Amérique d'abord. Ses successeurs viendront eux aussi parce que le lien d'amitié entre la France et les États-Unis a été tissé par l'histoire. Il est solide. Si les présidents passent, les sépultures restent comme figées dans l'éternité en ces terres dormantes. Elles nous appellent à mériter cette chance que nous avons de vivre libre. Elles nous appellent à œuvrer pour la paix. Aujourd'hui Portsmouth, demain les plages de Normandie, ce D-Day version 2019, écrit Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne. C'est aussi un hommage individuel à chacun des acteurs de ces heures décisives. Le souvenir dévoilé de moments très personnels, d'instants T vécus par chacun de ces milliers de soldats entre l'Angleterre et la France, ou de Français face à la mort à quelques minutes de leur dernier souffle. Mélenchon, la tentation du débarquement. Mais là, le journal L'Opinion ne parle pas du même débarquement, bien sûr. Insoumis ou démis, le chef de file de la France insoumise fait durer le suspense sur ses intentions. Pendant ce temps-là, l'autocritique qui s'amorce chez les insoumis aborde ouvertement la question de son leadership. Et puis Bruxelles ouvre les hostilités contre l'Italie, écrivent les Échos. La commission préconise l'ouverture de la procédure pour déficit excessif. Les populistes italiens présentent un front uni et persistent de leur volonté d'accélérer un programme économique très coûteux. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques.